quelques affiches collées sur des banques du centre-ville de Blois et Manon et Lucie se sont retrouvées au tribunal. C'est le sujet de notre chose commune du jour. En mai 2025, Manon et Lucie avaient utilisé leur courage, de l'eau, de la farine et du colorant alimentaire pour dénoncer les financements dans les énergies fossiles de la Caisse d'épargne et de la Banque Populaire. Ce mois-ci, en novembre 2025, elles ont été relaxées par le tribunal de Blois. Le procureur de la République et la juge ont reconnu que les banques n'avaient subi aucun dommage et que l'infraction n'était donc pas caractérisée. Cette victoire rappelle que la désobéissance civile non violente est légitime et nécessaire face à l'urgence climatique. À toutes et à tous, bienvenue sur Studio Zef et sur ce nouvel épisode de La Chose Commune. Et aujourd'hui, on est ravis d'accueillir en studio Manon, Lucie et Prunaille. Bonjour à toutes les trois.
Bonjour. Bonjour.
Alors pour commencer cette émission autour de ce procès dont on a entendu parler, je vous laisse déjà vous présenter chacun, chacune. On commence par qui ? De la manière dont vous le voulez.
Eh bien, j'y vais. Donc, bonjour à tous. Moi, c'est Manon. Je suis psychologue de formation. J'habite à Blois. Et avec Lucie, on a été convoqués en procès pour affichage sur les vitrines de la Caisse d'épargne Banque Populaire début novembre. Et voilà pourquoi on est là.
Oui, bonjour. Du coup, moi, c'est Lucie. Je suis enseignante dans le premier degré, dans le 41. Et voilà, je suis là en tant que citoyenne engagée pour des causes communes.
Et Prunaille ?
Ben moi, je suis là en tant que citoyenne engagée et notamment engagée activiste chez Extinction Rebellion, qui est un mouvement de désobéissance civile non violente.
Puisqu'on parlera bien sûr de désobéissance civile dans cette émission. Manon, tu as commencé à évoquer ce pourquoi vous êtes là aujourd'hui pour parler de ce procès. Alors déjà pour commencer, pour ceux qui n'auraient pas suivi l'affaire dans les médias, dans la Nouvelle République, quelle était cette action que vous avez menée, c'était en mai 2025.
Mai 2025.
Tout à fait. En mai 2025, on a participé à une action nationale lancée par le mouvement ATTAC, donc un mouvement contre les transactions financière. L'objectif de l'action, c'était une action non violente, d'aller coller sur des vitres des affiches qui parlaient des banques toxiques et qui dénonçaient donc les financements dans les énergies fossiles des grandes banques françaises.
Voilà, les milliards qui sont mis dans l'extraction d'énergies fossiles, d'aller un petit peu dire que ça suffit, quoi.
Cet appel d'attaque au niveau national, là on parle de Blois, mais qu'est-ce qu'il y avait eu d'autre comme action importante ?
Mais il était pas mal suivi, et si on va sur le site d'attaque, il y a un onglet sur l'action banque toxique et on peut voir les photos d'actions qu'il y a eu partout en France. Donc il y en a eu à Paris, Montpellier, enfin vraiment dans beaucoup, beaucoup de villes de France sur plusieurs banques qui étaient ciblées. C'était donc la Caisse d'épargne, la banque Populaire et la Société Générale.
Et d'ailleurs, je me disais, en préparant cette émission, pourquoi ces banques-là ? Et par exemple, il y a la BNP qui est très connue pour financer énormément les énergies fossiles. Voilà, pourquoi le choix de ces banques plutôt
Alors,
que d'autres ?
Alors justement, la BNP avait été pas mal visée. Moi, j'avais fait personnellement des actions contre la BNP il y a quelques années avec d'autres militantes d'Extinction Rebellion. Et là, en fait, la BNP n'a pas été ciblée parce qu'elle a un tout petit peu diminué ses investissements dans les énergies fossiles, un tout petit peu. Hein. Mm-hmm. Mais donc, ATTAC a choisi de cibler les trois banques qui continuaient vraiment à fond à investir dans les énergies fossiles. Voilà.
Et surtout, pas forcément à fond, ils investissent en général moins que la BNP ou le Crédit Agricole, toujours. Mais ils ont lancé une note sur les banques toxiques où ils expliquent beaucoup de choses. Et en fait, ils parlent qu'ils ont demandé, donc ils ont un plan pour que les banques deviennent moins toxiques. Et la BNP, le Crédit Agricole, auraient accepté de faire un plan de transition, ce que la Banque Populaire et la Caisse d'Épargne et la Société Générale auraient refusé. Et c'est pour ça que cette action ciblait particulièrement ces trois banques.
Ces banques-là. On parle de banques toxiques. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quoi le financement des énergies fossiles, même si ça peut paraître une question bête, est problématique, et le financement par ces banques-là ?
Alors, je ne me souviens pas exactement du chiffre, hein, mais ça m'avait beaucoup interpellée, en tout cas. Je crois que les énergies fossiles, donc les fossiles, enfin, la Terre met 1 million d'années à produire, hein, ce qu'on utilise en très peu de temps, je ne sais plus, vous n'avez pas le chiffre en tête. Enfin, en tout cas, c'est des énergies du coup qui donc fossiles, qui viennent, enfin, qui sont là depuis très longtemps, qui mettent beaucoup de temps à se former. Donc, on est en train de les épuiser. Donc, c'est vraiment comme s'il y avait des couches. On va vraiment prendre la moelle épinière un petit peu de la Terre. Et donc, ça va pas du tout, parce que du coup, elle en a besoin pour pouvoir vivre. Et on est en train de tuer notre propre environnement.
En fait, le gros problème avec ça, c'est que les énergies fossiles, c'est du carbone, du gaz à effet de serre. Ces gaz à effet de serre, on sait qu'il faut pas en émettre plus d'un certain mégatonne par million, avant 2100, mais de toute façon, maintenant, on sait que c'est acté qu'on va dépasser les 1,5 degrés, on les a déjà fait là. Les 2 degrés, il ne faut pas les dépasser avant 2050, mais ça va être fait quand même. Et donc, le pétrole qu'on sort, enfin, les gaz à effet de serre, pétrole, charbon et gaz naturel qu'on sort de terre, en fait, il faut les y laisser, puisque ça entraîne un réchauffement climatique qui est déjà présent et qui est déjà extrêmement destructeur pour la Terre entière, hein, pour notre écosystème Terre. Et la deuxième chose également, alors pour l'instant, c'est que le projet EACOP, par exemple, qui est financé notamment par la BNP pour Total Energy est en train de détruire complètement la forêt en Ouganda et en Tanzanie pour sortir du pétrole, évidemment en mettant à la porte des milliers de personnes qui vivent sur place, en polluant les eaux, en polluant les sols, en détruisant la faune et la flore, et c'est ça également qu'il faut dire.
Exactement, et que tout ça tue aussi en ce moment des êtres humains, et que ça on l'oublie parce qu'on a de la chance dans notre région occidentale, on n'est pas encore trop touché, même si quand même il y a de plus en plus de catastrophes climatiques et de choses qui arrivent, mais comparé à d'autres régions du monde, on n'a quand même pas le plus mauvais lot, on va dire.
Le même impact,
exactement. Que d'autres, donc on n'arrive peut-être pas encore à s'imaginer, même si ça vient, et c'est tout à fait... pas en accord avec les accords de Paris, justement, qui avaient été signés, ratifiés par plein de pays. Et finalement, on ne va pas du tout dans la bonne direction.
Vous avez juste collé des affiches sur des banques. Est-ce que vous vous attendiez à ce que ça aille si loin avant de vous lancer là-dedans?
On sait qu'il y a toujours des risques qu'il y ait des poursuites, notamment parce que les poursuites sont de plus en plus répressives sur les militants et les militantes qui s'engagent pour le climat et pour sauver l'humanité et la biodiversité. Mais voilà, on a utilisé quand même de la colle à la farine, on a vraiment fait attention. Donc on a juste mélangé de la colle avec de l'eau pour obtenir une colle avec un petit peu de colorant alimentaire, histoire que ce soit un peu plus impactant. Et on a juste mis des affiches, on a fait très très attention à ne rien abîmer. On n'a pas mis de colle sur les distributeurs pour pas qu'il y ait des choses qui s'infiltrent et qui puissent abîmer le matériel. C'était vraiment un affichage en fait pour dénoncer. Donc on ne s'attendait pas forcément non à aller jusqu'au tribunal. Déjà quand on a été convoqué par la police, c'était un peu déroutant, voilà, juste pour ça. Même si en même temps, en soi, on sait que ce n'était pas une action légale de base, même si pour nous elle est légitime puisqu'elle défend le vivant.
On s'attendait pas, enfin moi personnellement, et je pense que pour toi c'était un peu pareil, on s'attendait pas à autant. Du coup, on risquait jusqu'à 1 500 € d'amende, des travaux d'intérêt généraux, et que ça soit écrit dans le casier judiciaire, inscrit dans le casier du judiciaire. Donc ça, je crois que c'était un des trucs qui était quand même... Enfin, tout de suite, ça vient inscrire quelque chose. Et voilà, et du coup c'était quand même important, enfin moi en tout cas je trouvais que c'était un peu disproportionné par rapport à ce qu'on avait fait, et d'autant plus que on voulait pas être masqué, parce que pour nous on n'avait rien à se reprocher, enfin c'était pas quelque chose de si criminel, hein. Enfin si
délictueux,
merci, parce que je me disais c'est pas le crime. Mais du coup, c'est vrai qu'on se dit, oh, bah, pour 1 500 €, ça coûte cher de coller 3 affiches. Enfin voilà, donc ça paraissait quand même un peu...
En fait, ce qui se passe maintenant, c'est que l'État veut absolument museler les voix des écologistes, des scientifiques également, parce qu'il faut rappeler qu'il y a pas mal de scientifiques en rébellion maintenant, puisque ça fait quand même des décennies qu'ils interpellent l'État et que l'État ne fait rien. D'ailleurs, il faut rappeler que l'État français a été condamné pour inaction climatique. Hein. Et donc, c'est une manière de museler les personnes. L'État, d'ailleurs, dit qu'il n'y a pas de dialogue avec les écologistes parce que, soi-disant, les écologistes seraient des activistes éco-terroristes. Mais en fait, l'État fait du forcing, passe en force. On voit bien avec l'A69, on voit bien avec les mégabassines qui ont été d'ailleurs déclarées illégales pour la mégabassine de Sainte-Soline. Il passe en force et après, il s'étonne que des citoyens lambda ou d'autres personnes qui sont engagées dans des associations, dans des activismes comme XR, hein, qui est une association, enfin, qui est un mouvement horizontal, il s'étonne qu'il y ait des mouvements de citoyens vraiment en colère. Voilà. Et d'ailleurs, il faut quand même rappeler que la violence, elle part de l'État, puisqu'il faut quand même rappeler ce qui s'est passé à Sainte-Soline avec la révélation de Mediapart et de Libération. Les gendarmes étaient là pour tuer, en fait. Alors que les deux jeunes filles qui sont à côté de moi, il y a même pas de délit. Elles ont juste collé des affiches avec de la colle à la farine. Alors, je me demande bien où est la violence.
La violence d'État et le militantisme, cette criminalisation, Pruna, et toi qui es dans Extinction Rébellion, dans XR, est-ce que tu l'as vu se développer fortement et à partir de quel moment est-ce qu'il y a...
En fait, au départ, quand XR est arrivé à Blois en fin 2019, c'était assez... On ne craignait pas grand-chose. En fait, on n'imaginait pas qu'il puisse y avoir des répressions comme ça. On l'a vu monter. Alors, avec Sainte-Soline, ça a été l'explosion. Et puis, dernièrement encore, j'étais début juillet au château de Scopon, là, contre la 69. Et les gendarmes, il y avait 1600 gendarmes, alors qu'on était 1500 activistes. Et ils ont tout de suite, en fait, envoyé des gaz lacrymogènes, mis le feu à la prairie. Ils avaient les blindés, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, là, des énormes blindés. Ils étaient tous habillés en Robocop. Là, on voit vraiment que la violence, elle monte. Et qu'en fait, l'État a peur. Elle veut vraiment museler et faire peur. Excellent. Mais on sent vraiment, là, maintenant, depuis quelques temps, depuis 2 ans, en tout cas, une montée de la violence de la part de l'État qui est absolument phénoménale et qu'on ne pensait pas du tout... arrivé il y a même 5 ans.
Et qui est totalement disproportionné. Enfin, en tout cas, nous, on le ressent comme ça, parce que souvent, on arrive assez gaiement, en chantant, en essayant justement de ne pas détruire, de ne pas casser. Et on nous répond tout de suite, on le voit sur les images, par des bombes, des comportements vraiment violents qui sont défendus par le gouvernement. Et ça fait peur.
Avant qu'il y ait l'arrestation, le procès, etc., est-ce que vous aviez eu des retours de la population de Blois sur les affiches? Parce que voilà, il y a le retour des banques qui vous attaquent en justice, mais quel était le retour des Blaisois, Blaisoises sur cette action? Et outre les cercles militants, voilà.
Oui. Moi, j'ai pas eu trop de retours. Ça a été très vite, du coup, enlevé. C'était le vendredi soir et le samedi matin, 10-11 heures, je crois, ça a été enlevé.
Un peu plus tard, c'était quand même dans l'après-midi.
D'après-midi ?
Ouais, d'après-midi,
c'était. Donc, du coup, c'est vrai qu'on aurait dû aller au marché pour
écouter
pour écouter un petit peu, parce que du coup, il y avait pas mal de personnes qui passaient.
Alors, moi, je suis allée au marché, justement, pour voir, et je suis allée regarder. Et il y a beaucoup de gens qui lisaient les affiches, en tout cas, qui se sont arrêtés. Il y avait surtout marqué banque toxique avec des dessins de pétrole. C'était les affiches officielles d'attaque. Peut-être qu'il manquait aussi d'une affiche qui explique un peu plus en détail le pourquoi du comment. Donc peut-être qu'il y a des personnes qui n'ont pas vraiment compris plus loin, mais qui ont au moins vu que la banque était identifiée pour quelque chose.
Oui, c'était ça. Surtout les retours. C'était les retours de pourquoi. Pourquoi ces banques? Qu'est-ce que les banques fossiles? Enfin, voilà, un manque d'explication sur l'affiche. Vraiment. Bon, après, on peut aller chercher sur Internet. Maintenant, c'est très facile quand même. Mais je pense que ça manquait de lisibilité. Enfin, que ça manquait de lisibilité.
Le tribunal, je lisais dans l'article de l'ANR, parle... on a l'impression qu'il parle un peu de proportionnalité de l'action. Enfin, voilà, s'il y avait eu une action dégradante, il y aurait peut-être eu sanction. Enfin, voilà, on a l'impression qu'il y a une histoire un peu de proportionnalité. Comment vous avez déjà reçu le jugement?
Du coup, Alors, ce qui est important, je trouve, à noter, parce qu'on parlait de l'État, de la violence de l'État, etc., mais ce qui est important à noter quand même dans notre jugement, c'est que la relaxe a été demandée par le procureur lui-même, donc qui représentait les parties bancaires, enfin la Caisse d'épargne Banque Populaire, voilà, en disant que les affiches qui avaient été collées, pour lui, n'étaient pas des dégradations légères, ce pourquoi on était convoqué.
Il l'a prouvé en justifiant qu'il n'y avait aucun représentant de la banque qui s'était déplacé
en plus
pour le procès. Donc ça, pour lui, c'était quelque chose. Et que sur le procès verbal, ils avaient bien dit qu'il n'y avait, que ça ne leur avait rien coûté puisqu'ils avaient nettoyé eux-mêmes. Et qu'ils avaient bien vu en enlevant qu'il n'y avait aucune dégradation sur les vitrines ou sur les choses.
D'ailleurs, à ce sujet-là, il faut bien souligner que en fonction des tribunaux, en fonction des juges, en fonction des procureurs, les jugements sont rendus très différemment. Mmh. C'est-à-dire que là, on sentait bien que le procureur de la République, qui défendait donc les intérêts de l'État, lui, il avait plutôt certainement une tendance à, un peu écologique, alors que la juge, elle, ça n'a pas été le cas. Et par contre, il y a d'autres juridictions où le juge lui-même... où le juge, en fait, a statué pour la relaxe. Alors que dans d'autres tribunaux, pour les mêmes faits, il y aurait eu condamnation. Donc là, il y a aussi matière à réfléchir. Et puis, ce qui est regrettable quand même, c'est qu'on ne parle jamais du fond du problème. On parle de dégradation. Est-ce qu'il y a eu dégradation ou pas sur la banque? Bon, là, il n'y avait pas photo, il n'y avait aucune dégradation. Mais par contre, on ne parlera jamais des dégradations causées... dans les forêts des pays africains, dans lesquels on va chercher ce qui va nous permettre, nous, de continuer à vivre notre petite vie d'occidentaux bien, bien tranquille. Hein. On vit quand même sur le dos de ces pays-là.
C'est peut-être le point positif, avec des gros guillemets, de cette criminalisation qui est liée forcément au juridique et qui s'ouvre un vaste champ de bataille sur le plan juridique aussi pour vous en tant que militante, et peut-être réussir à faire par le biais de procès, de jugement, gagner certaines batailles. Comment vous voyez ça ?
Ça donne envie. En soi, comme le rappelait Prunay tout à l'heure, l'État a été condamné pour une action climatique. Il y a énormément de procès. Là, récemment, Total pour greenwashing. Voilà, c'est des choses qui avancent, mais je crois que les amendes et les sanctions ne restent pas à la hauteur. Ça reste un petit peu des effets d'annonce. Et là, ce qu'on attend, donc pourquoi pas plus de procès, allons-y, fonçons. Mais ce qu'il faut après, c'est des réponses, et des réponses adaptées, et qu'on ait un vrai changement structurel qui nous permet de nous remettre sur une bonne voie pour sauver l'humanité et la biodiversité.
Et puis, quant au jugement là, dans les tribunaux, la politique, en fait, des scientifiques en rébellion, et puis également, il y avait également dernières innovations, etc., et un petit peu XR, et c'était justement un visage découvert pour passer peut-être devant les tribunaux et pour clamer le pourquoi de notre combat. Mais il faut rappeler quand même que beaucoup de ces militants sont des petites gens, en fait. Ce n'est pas les bourgeois qu'on décrit à chaque fois. Les écolos sont des bourgeois, c'est des bobos parisiens. C'est faux. C'est faux. Dans le rural, dans notre monde rural, il y a beaucoup de monde qui sont quand même très inquiets. Et une amende de 1 500 € sur des salaires qui sont tout juste le SMIC, eh bien, c'est quelque chose qui fait extrêmement peur et qui arrête. Hein. Et c'est comme ça qu'on muselle les gens. Évidemment, on n'a pas encore peur d'être envoyé d'un mine de sel, on n'est pas encore en Corée du Nord, mais des amendes de 1 500 € sur des personnes qui gagnent à peine le SMIC, eh ben ça calme.
Ah oui, moi ça me fait réfléchir.
Oui, est-ce que justement ça fait repenser son engagement ou...
Je finis un peu parce que c'est quand même un point, en tout cas, qui me tient à cœur et que j'ai envie de déposer ici. Moi, en tout cas, ce jugement, il m'a redonné un tout petit peu confiance quand même en la justice, dans le sens où je me suis sentie protégée. C'est-à-dire que ça enlève le pouvoir de la Caisse d'épargne Banque Populaire de pouvoir porter plainte pour trois affiches, de pouvoir... là, au moins, même le procureur... estimait qu'il n'y avait pas de, il y avait pas de dégradation, il n'y avait pas lieu qu'on soit là, qu'on soit présente. Et ça, moi, je trouve que c'est un mini grain de sable. Enfin, c'est rien du tout. Mais en tout cas, moi, je me suis sentie protégée par une vraie justice. La juge, je ne sais pas si elle était contre. Enfin, moi, j'ai pas eu le même ressenti, en tout cas. Mais moi, je trouve que ça, c'est vraiment à souligner parce que c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment s'appuyer parce que c'est des combats où c'est un peu la convergence de tout le monde. Mmh. Il faut qu'on aille tous un peu dans le même sens. Et c'est vrai que sans la justice, on ne peut pas faire grand-chose non plus. Donc la justice pour... Après, les banques, etc., elle est très différente, ou pour les hommes politiques, etc. Mais ce n'est pas les mêmes justices pour tout le monde, la même justice. Mais il y a quand même des petites victoires. Oui, des petites... Mmh. Et puis c'est normal, en fait. Enfin, il y a quelque chose, moi, où je me suis dit, ah, ok, d'accord. En fait, on a encore
mon action un peu... sinon légitime, en tout cas...
Elle n'était pas condamnable. Oui, et elle ne pouvait même pas être qualifiée d'illégale, puisqu'elle n'était pas, elle ne rentrait pas dans quelque chose d'illégal en fait.
D'après le jugement, en tout
cas. Oui, c'est ça. C'était pas reconnu comme dégradation, et on était là pour dégradation. Donc voilà. Donc,
ouais. Lucie, toi, comment tu vis un peu l'après ?
L'après, ça nous a fait du bien parce que mine de rien, c'est vrai que c'était angoissant parce qu'on on se disait quand même qu'on n'avait pas fait grand chose de grave et voilà, ça allait, mais plus l'heure s'approchait, plus on stressait. Moi, j'étais presque sûre de repartir avec une amende puisque on était jusque là, donc on se demande comment on peut s'en sortir autrement. Donc en effet, un soulagement d'avoir été relaxé. Pour le coup, d'avoir été relaxé en plus, ça donne plus envie de continuer et pourquoi pas. J'aimerais ne pas avoir besoin de faire quoi que ce soit, puisque je vais déjà voter, je vais manifester, je fais grève quand je peux. Voilà, j'utilise vraiment toute la panel de moyens à ma disposition. Le problème, c'est comme on ne nous entend pas ou plus, mais on ne nous entend pas, on ne nous écoute pas, on ne fait rien, ça donne envie de continuer jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose et qu'enfin on nous écoute. Voilà, d'être un peu, on va dire, entre guillemets, du bon côté de l'histoire, parce que vraiment là, on est en train de se. Enfin, on va droit dans le mur et à pleine vitesse.
Et c'est toute la difficulté, je trouve, et on a pu le dire aussi pendant le procès, de se retrouver, ton avocat, il l'a bien dit, un peu sur une ligne de crête, hein, jusqu'où, en fait, on n'agit pas, jusqu'où on agit. Et c'est dans la constitution du citoyen où c'est écrit, en fait, qu'on se doit, face à une oppression, de faire quelque chose. Alors évidemment, entre parenthèses, c'est marqué manifestation, grève, trois petits points. Mais du coup, là, je rejoins ce que Prunay disait, avec une telle violence de l'État, etc., jusqu'où, en fait, nous, nos actions...
Nos moyens d'action.
Enfin, et c'est assez compliqué de jauger ça. Et c'est vrai que des affiches, on est loin de la violence, quand même, je pense. Mmh. Et par rapport à la violence qu'on vit au quotidien, parce que là, on parle d'écologie, mais il y a toute l'éducation, enfin bon, ça, de partout, la santé, ça, partout, ça fuit.
En fait, on commence à rentrer en action, dans l'activisme, quand on voit que le vote... ça fait rien du tout. On l'a bien vu aux dernières élections. Hein. Il a été quand même volé, le vote pour la gauche. Hein. Les pétitions, pareil. Les grèves, il y a eu 3 millions de personnes dans la rue quand même pendant plusieurs mois. Et que dalle. Hein. Pour la retraite, c'est passé quand même. Les marches pour le climat, il y en a eu beaucoup en 2019. Les jeunes ont quand même dit qu'ils étaient extrêmement effrayés. Hein. Ils ne veulent plus faire d'enfants. Et je les comprends parfaitement. Hein. Et rien. Donc, il y a un moment, il faut bien essayer de faire quelque chose.
Il faut se lever. Et en plus, on entend dire qu'il faudrait 3,5% de la population, 85% de la population se mobilise, se lève pour que potentiellement ça renverse le système. Donc, c'est vrai qu'on se dit, let's go, allons-y. Et n'hésitez pas à venir avec nous.
Cette répression des militants et des militantes, est-ce que ça pousse aussi les mouvements comme XR, par exemple, Prunay, à se former à tout ce monde juridique ? Est-ce qu'il y a déjà des choses de mise en place dans le mouvement ?
Oui, en fait, déjà très rapidement, les personnes qui rentrent chez XR... donc je rappelle, c'est quand même un mouvement horizontal, il n'y a pas de chef. Hein, on n'est pas encarté, chacun peut proposer ce qu'il veut, la parole est libre... On fait des journées de désobéissance civile non violente pour apprendre justement un petit peu du juridique, un petit peu comment faire face aux forces de l'ordre pour rester toujours dans la non-violence, c'est-à-dire qu'on se laisse faire en fait. Tout ça, ça doit s'apprendre. Et puis, évidemment, chez XR et comme chez d'autres mouvements écologistes militants, il y a des personnes qui s'informent un peu plus sur les pôles juridiques, Il y a des avocats aussi qui peuvent nous suivre. Non, il y a quand même des choses derrière. Hein. Par contre, effectivement, sans le mouvement des citoyens, enfin des personnes qui sont derrière, il n'y a rien qui peut se faire. Hein. Et on apprend au fur et à mesure, en fait.
Est-ce que Manon et Lucie, vous aviez des notions voilà, sur le juridique avant cette histoire ou est-ce que c'était vraiment un monde que vous avez découvert par cette histoire-là?
J'avais déjà entendu parler de notions, personnellement, notamment si on avait eu un contrôle d'identité, si des choses comme ça, c'est des choses qui circulent, qu'on voit beaucoup dans les mouvements quand on s'intéresse un petit peu justement aux méga-bassines ou des choses comme ça. On a tout un protocole. Après, n'étant jamais allé au-delà de ça, réellement, tant qu'on ne l'a pas vécu, en fait, c'est dur. Et non, avoir toutes ces notions, quand on reçoit la convocation, par exemple, qu'on voit les textes de loi, les choses, on ne sait même pas exactement sur quoi on peut attaquer, parce que le problème de la justice, c'est que ça reste... Voilà, il faut se défendre par rapport à ce sur quoi on est attaqué. On ne peut pas non plus toujours... Surtout que là, on était devant le tribunal de police, donc on n'a pas vraiment le temps de tout expliquer. Mais voilà, c'est très déroutant et j'ai eu la chance de tomber sur un avocat qui a été très aidant et qui a pu prendre un peu plus les choses en main en tout cas et voilà, connaître un peu plus son sujet.
Oui, et nous aider un peu parce que c'est vrai que c'est un vocabulaire particulier, c'est plein de choses. Enfin, nous, on ne savait pas du tout. Alors, on était en contraventionnel pénal, je ne sais pas quoi. Enfin bon, c'est plein de mots comme ça qui font un peu peur quand même. C'est assez impressionnant. Et du coup, oui, moi, je connaissais aussi un petit peu, voilà, de par mon métier aussi. Mais quand on est dedans, quand on est vraiment concerné, ça change un peu la donne aussi, je trouve. Les choses, on ne les vit pas de la même façon quand même.
Ça donne à réfléchir aussi sur le lieu de la banque. Enfin, voilà, je trouve la sacralisation de la banque comme lieu qui serait indispensable à nos vies.
Une grande question que le capitalisme. Je pense... En effet, de toute façon, on va dans une direction parce qu'on est capitaliste et qu'on veut produire toujours plus dans un monde qui est pourtant fini. On sait très bien actuellement qu'on dépense plus de ressources que la planète peut en produire chaque année. Et chaque année, la date où on a dépassé ces ressources avancent, enfin, c'est-à-dire qu'elles sont de plus en plus tôt dans l'année. Donc on est vraiment en train d'user jusqu'à la moelle, comme tu disais tout à l'heure, la planète. Et ça, à cause du capitalisme qui veut toujours plus d'argent pour toujours les mêmes personnes, hein, parce que c'est vraiment 1% des personnes qui ont toutes les richesses. Et c'est assez déroutant que pour ces personnes, enfin, que ces personnes aient réussi à avoir autant de pouvoir pour qu'on continue dans cette marche vers l'argent, alors qu'il y a quand même tellement d'autres belles choses à vivre de joie dans des moments simples.
Et c'est toute la complexité, je trouve, dans laquelle on peut être dans notre société, où on ne peut pas vivre en ermite non plus. Donc on fait partie un peu... Enfin, on fait partie de cette société capitaliste, et c'est comment se positionner. Enfin, moi, c'est une question, en tout cas, voilà, comme pour l'affichage, jusqu'où je vais, en fait, dans mes convictions, dans mes valeurs, dans mon éthique. Et je pense que notre manière de consommer... Elle est importante. Par exemple, il y a des choses... Il y a une banque, la NEF, qui est plus éthique, donc, où on peut placer son épargne et qui finance des nouveaux projets plus éthiques, durables, écolos, toutes les étiquettes qu'on veut. Il y a l'épargne solidaire aussi. Et en fait, c'est des citoyens qui se prêtent de l'argent. Moi, en ce moment, j'ai de l'argent. Ben, moi, je peux te le rembourser sur tant de temps. Donc, je pense qu'il faut qu'on réussisse à inventer d'autres choses qui permettent de ne pas passer par la banque.
Oui, exactement. C'est ce que je voulais justement relever ça. Mmh. C'est qu'en fait, on peut quand même choisir sa banque. On peut quand même choisir de ne pas être à la BNP, de ne pas être à la Société Générale, de ne pas être... Alors moi, je ne suis pas à la NEF, je suis à la Banque Postale depuis toujours. Je pense que c'est une des banques les moins pires, hein, même si aucune banque n'est vertueuse, mais c'est quand même une des moins pires. En tout cas, elle ne fait pas dans les énergies fossiles. Mmh. On peut choisir de là où on met sa petite épargne. C'est vrai que il ne faut pas culpabiliser les gens parce que les États sont extrêmement responsables, mais on peut aussi, agir également à notre façon. Hein.
On peut agir. Je suis d'accord qu'on peut agir. Après, ce qu'il faudrait pour que les changements soient vraiment importants, je pense, c'est que ce soit structurel. Parce que,
complètement.
Voilà, trop, il y a des gens qui, en fait, on ne peut pas leur demander de changer de banque, sachant que, justement, comme l'argent est monopolisé par les mêmes personnes, on en a tellement plus que c'est toujours difficile de se dire qu'on va aller vers une banque qui va peut-être, même si elle est plus éthique, prendre peut-être plus d'intérêt ou plus de choses, même si c'est pour une bonne cause. Voilà, tout le monde ne peut pas se le permettre. Et je pense que voilà, on ne peut pas se passer d'argent. N'importe qui dans la société actuellement, Il faut juste qu'elle soit redistribuée et ensuite qu'on mette des règles pour qu'il n'y ait pas d'évasion fiscale à ce point-là, pour qu'il n'y ait pas de financement dans des projets mortifères.
On sait quand même que certaines banques, elles sont plus nocives que d'autres quand même.
Oui, mais du coup, après, c'est, comme disait Lucie, c'est vrai que c'est très important que ça soit pris par le tissu étatique institutionnel, enfin quelque chose qui est des lois, en fait, pour limiter...
Parce que le fonds devrait être interdit.
C'est ouais. ça. Mmh. Et c'est... Oui. Oui,
oui, oui. Ouais. Si c'est légal, tant qu'on aura les gouvernements qu'on a pour l'instant, il ne faut pas espérer que ça descende du haut. C'est pour ça que je pense, moi, quand même, que s'il n'y a pas des pressions de citoyens de la base, on n'arrivera à rien. Moi,
j'ai pas dit que j'étais contre. Je suis d'accord avec toi.
Je sais.
Ce que je pense, c'est qu'il faut même aller au-dessus et viser au-dessus.
Disons que j'ai plus vraiment confiance. Tout le monde ne peut pas le faire. J'ai plus vraiment confiance dans nos institutions. C'est vrai que je suis plus âgée, donc j'ai perdu beaucoup d'illusions.
Oui, mais ça viendra sans doute du bas, mais il faut un mouvement global pour pousser les gens, je pense.
Et Prunaille, face à cette désillusion, qu'est-ce qui te fait quand même tenir, toujours être dans XR,
Alors, déjà, moi, je pense que la passivité, c'est la pire des choses. Je pense que dans l'action, on est toujours mieux. Ça évite de déprimer. Ensuite, moi, je suis pas éco-anxieuse. Depuis le temps, c'est passé. Mais par contre, je suis toujours très en colère. Alors... Moi, c'est la colère qui me guide, une colère construite, de voir toujours où est mon objectif. Et c'est vrai que je pense que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et en tout cas, il ne faut pas... c'est trop facile, en fait. Enfin, je veux dire, c'est facile. De laisser les choses se faire et puis après, de voir les désastres autour de nous. Surtout qu'en plus, nous, on fait partie... Moi, je fais partie des gens privilégiés. J'ai un toit, j'ai à manger, j'ai un travail. Même si, effectivement, nos salaires ne sont pas mirobolants. Mais moi, je pense à tous les millions de personnes qui n'ont rien, en fait. Je donne des cours au Resto du Cœur, j'aide beaucoup les migrants. Et quand je vois leur détresse et qu'en plus, on ferme les portes, mais ça me met tellement en colère. Et surtout qu'en plus, on est responsable, je veux dire, les sociétés riches, productivistes et capitalistes, de ce qui se passe. Et quand j'entends la France dire qu'elle est responsable que de 1% du réchauffement climatique, mais j'ai envie de hurler. Tout ce qu'il y a dans... Les gaz à effet de serre qui sont dans l'atmosphère, c'est ce que nous, on a envoyé depuis 1800, l'Angleterre, la France, l'Allemagne et les États-Unis. Pour l'instant, la Chine, elle n'est pas vraiment responsable de ce qui se passe là, même si maintenant, elle est rentrée dans le jeu.
Mais qu'on leur achète tellement de produits qu'on se demande...
Exactement, et qu'on leur achète tellement de produits, il n'y a qu'à voir Chine au BHV. Moi, c'est la colère, en fait, qui me tient. La colère, et puis parce que j'ai un tempérament optimiste, joyeux, en fait. Même si ça ne se voit pas toujours.
Manon et Lucie, est-ce que cette histoire vous a fait un peu repenser la désobéissance civile même rien que, en fait, Prunaille, quand tu présentes XR, on dit maintenant mouvement de désobéissance civile non violente. On sent bien aussi la pression et la répression dans l'indicatif non violente qui est forcément... Enfin, où on est obligé d'en venir à dire ça pour décrire le mouvement. Voilà, est-ce que ça vous a fait repenser la désobéissance civile?
Moi, ça me donne envie de continuer. Parce que ce qui a été très important aussi, et c'est important, je pense qu'on le dise, c'est qu'on a quand même... Lucie a lancé la pétition. En 8 jours, il y a eu 600 signatures, je crois. On a eu beaucoup de retours et ça, là je parle pour nous deux, mais ça nous a beaucoup porté. On allait voir tous les jours le nombre de personnes et de voir qu'il y avait à peu près 100 personnes par jour qui signaient, que les retours étaient « mais c'est quoi ça, c'est n'importe quoi ». Enfin, qu'il y avait vraiment toute une... un collectif quand même derrière. Moi, ça m'a vraiment confortée parce qu'il y a des moments où je me disais on sait pas trop, en fait. On est justement sur cette ligne de crête et ce que je fais, c'est pas légal, mais c'est légitime, je le sens comme légitime. Donc ça m'a vraiment confortée dans non, tu déconnes pas, en fait. Il y a des choses qui sont très importantes et faut continuer à aller dans ce sens-là, à défendre le vivant, parce qu'on parle beaucoup des hommes, mais il y a aussi tous les animaux, tous les végétaux, etc. Nous, on se tue nous-mêmes, on se dit intelligent, mais on tue notre environnement, mais on tue aussi ceux qui n'ont rien demandé, et puis toutes les personnes qui n'ont rien demandé, quoi, aussi. Bref, donc voilà, c'est ça. Donc oui, je vais continuer.
Ça donne envie de continuer, surtout comme tu le disais, la pétition, et même le jour même devant le tribunal, il y a eu beaucoup de monde, même à l'intérieur du tribunal, comme c'était une séance ouverte, il y a des gens qui nous ont accompagnés jusqu'au bout, et donc tout ce soutien nous dit qu'en effet, comme tu dis, on va dans la bonne direction et que voilà, on peut essayer en tout cas de faire changer les choses en continuant des actions de désobéissance civile non violente.
Sur le plan juridique, est-ce qu'il y a des concepts sur lesquels qu'il faudrait faire réussir à... j'ai lu dans l'ANR, mais il y avait très peu de phrases, c'était faire reconnaître la nécessité d'agir.
Mais c'est plus l'état de nécessité, de faire reconnaître un état de nécessité. C'est-à-dire, et moi c'est peut-être un peu le point où je reste un peu... dubitative dans ce qu'on a vécu avec Lucie, là, c'est je me dis, on aurait dû peut-être encore aller plus loin, est-ce qu'on peut aller plus loin, enfin voilà, à voir, pour que ça soit même reconnu en tant qu'état de nécessité que de venir afficher trois affiches. Oui, ça fait partie de l'état de nécessité parce que, au vu de la gravité de ce qui se passe et de l'urgence, c'est un état de nécessité de se mobiliser autour de ça.
Et que ça, voilà, ça n'a pas non plus été vraiment dit comme proportionnel ce qu'on a fait par rapport à la violence que font. Voilà, peut-être qu'on aurait pu aussi. Voilà, mais il faudrait peut-être voir avec des avocats pour tout ça ce qu'il faudrait exactement qu'un tribunal reconnaisse pour que ça fasse jurisprudence, une belle jurisprudence qui permette à la lutte de continuer plus sereinement.
Oui, par exemple, condamner Darmanin quand il parle d'éco-terroriste, hein, puisqu'il met une cible sur chaque militant. On l'a bien vu à Sainte-Soline. Et moi, j'aimerais bien qu'un jour, on puisse les condamner, ces gens-là, devant le tribunal, parce qu'eux mériteraient vraiment pas 1500 euros d'amende. Hein. Moi, je les enverrais carrément en tôle. Hein. Moi, je dirais que si ça peut donner envie à des personnes de nous rejoindre... de rejoindre donc des citoyennes qui essayent de se battre, puisque vous voyez qu'on peut faire des choses sans forcément finir. En tout cas, on est relaxé. Donc, il ne faut pas avoir peur. Il faut nous rejoindre. Si jamais vous vous sentez éco-anxieux, eh bien, agissez. Ne restez pas à l'intérieur de votre déprime. Il y a des mouvements d'activistes qui peuvent vous accueillir et toutes les compétences sont les bienvenues.
XR, vous avez des pages Facebook, Instagram sur lesquelles on peut vous envoyer des messages pour vous contacter. Et puis des réunions publiques aussi parfois pour rejoindre le mouvement.
Oui, parfois, mais c'est surtout des réunions privées entre nous. Et on fait des accueils de nouveau et on est ouvert à tous et toutes.
Et ben, un grand merci à toutes les trois, Prunaille d'Extinction Rébellion, et Manon et Lucie. Vous pourrez retrouver cette émission en podcast sur le site de Studio Zef, studiozef.fr, et puis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La Chose Commune. À bientôt.